Yves Mamoud, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été 23 ans journaliste au Monde. Vous l'avez quitté en 2011. Vous avez depuis écrit plusieurs livres. Et l'un en particulier dont nous allons parler, qui s'appelle « Le grand abandon, les élites françaises et l'islamisme », que vous avez publié en septembre 2008. 2018. Ce livre que j'ai lu avec un grand intérêt, d'un seul coup, j'ai eu l'impression que les pièces d'un puzzle qui me paraissaient assez détachées les unes des autres se remettaient en place. Et c'est de cela que nous allons parler, donc la situation des élites de France, la réaction des élites de France à l'islamisme. Mais avant tout, je voulais vous poser une question sur le Monde, donc vous êtes resté très longtemps, vous avez été chroniqueur économique. Dans quelles conditions êtes-vous parti ?
Oh, je suis parti parce que il y avait un plan de départ et que moi-même j'arrivais à l'âge de la retraite, mais surtout que je suis parti parce que j'en avais assez et que je ne supportais plus. Autant j'étais fier de rentrer au Monde 25 ans, quasiment 25 ans auparavant, parce que c'était le grand journal français, et quand j'en suis parti, c'était quasiment un journal proche des islamistes, quoi. Donc moi, j'étais de plus en plus mal à l'aise, j'étais très malheureux. Et dès que la porte s'est ouverte, je suis parti.
Alors, si j'ai bien compris, vous avez aussi écrit plusieurs livres, dont des romans policiers. Et l'un de ces romans policiers, que l'on a comparé à un livre de John le Carré, ce qui est pas mal, parle de bioterrorisme et du rôle du Hezbollah dans le bioterrorisme. Ça repose sur une enquête que vous avez effectuée. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, c'est-à-dire qu'on est allé en 2006, quand il y a eu la guerre qui a duré trois semaines entre Israël et le Hezbollah. Bon, j'étais comme tout le monde suspendu devant ma télévision, devant les dépêches AFP, parce qu'à l'époque j'avais accès aux dépêches AFP, etc. Et à la fin de la guerre, il y a une dépêche qui est tombée et qui disait: il y a des militants du Hezbollah qui se baladent avec des ânes remplis de dollars et ils sont en train de distribuer 300 millions de dollars aux paysans du sud Liban pour les aider à reconstruire le pays qui a été dévasté par l'aviation israélienne. Alors j'ai trouvé ce chiffre, c'était pas l'idée des couffins et des ânes remplis de dollars, c'était l'idée que le Hezbollah avait pu mobiliser 300 millions de dollars immédiatement qui m'a fasciné. Et donc j'ai proposé à la direction du journal, je dis... D'où vient l'argent ? Je leur ai dit, ça, c'est une question quand même très intéressante et qu'on pourrait poser. Alors, mon directeur de la rédaction ne m'a pas répondu. Et comme il ne m'a pas répondu, je me suis senti autorisé à faire une enquête. Donc, je me suis demandé quelles étaient les sources de financement du Hezbollah. Très rapidement, j'ai abouti très vite au fait que, un, c'est l'Iran qui finance l'essentiel de l'armement et de la formation des miliciens du Hezbollah à ces armements. Deux, la deuxième source majeure de financement du Hezbollah, c'est le trafic de cocaïne. Trois, c'est la contrefaçon. Et quatre, le racket des communautés chiites qui sont implantées dans la corne de l'Afrique. Parce que depuis très longtemps, depuis la fin du 19e siècle, il y a des communautés chiites qui sont dans le commerce du diamant dans la corne de l'Afrique. Et donc ces communautés du chiite sont rackettées par le Hezbollah et ça contribue aux sources de financement. Et donc j'avais fait un grand papier qui aurait, s'il avait été publié, aurait été sur une pleine page. Et le direction du journal a refusé de publier. Donc on était en permanence dans ce cas de figure exemplaire où la situation était posée. Il y avait les Israéliens qui étaient les méchants d'un côté, les musulmans chiites de l'autre avec du Hezbollah qui étaient les gentils, quoi qu'ils aient fait. Et il ne fallait pas déroger à ce schéma de pensée. Et j'étais tellement écœuré que du coup, je me suis dit, j'ai essayé de le publier dans d'autres journaux. Le résultat a été le même. Ils ont refusé de publication. Et donc, j'en ai fait un roman policier. Du coup, j'ai romancé la situation, ce qui m'a permis de raconter en détail des histoires, comment le Hezbollah trafique, la drogue, le médicament, la contrefaçon, enfin, un peu tout, quoi. Voilà.
Oui, là, il s'agit d'une source de financement très, très, très importante que beaucoup de gens savent, mais qui n'est très rarement mise en avant. Alors, nous allons parler de votre livre « Le grand abandon », dont je répète que la thèse, schématiquement, est que les élites françaises ont développé une sorte d'idéologie diversitaire, peut-on dire, et que cette idéologie diversitaire consiste à des accommodements, on peut dire, certains peuvent dire, et je le dis moi-même, une abdication par rapport à l'islamisme. Alors, Michel Tribalat a écrit un jour que quand une culture tolérante accueille une culture intransigeante, c'est toujours la première culture, la culture tolérante, qui cède devant la culture intransigeante. Est-ce que nous en sommes là actuellement en France ?
Nous sommes en tout cas dans ce cas de figure, à savoir qu'il y a effectivement une culture qui est prise en main par des factions intransigeantes de l'islamisme et qui aujourd'hui monte en puissance progressivement. Et en face, là où l'État devrait poser les règles, devrait cadrer la situation, eh ben, on assiste à une démission généralisée. D'ailleurs, c'est moi, j'en avais pas conscience vraiment quand j'ai commencé à écrire ce bouquin, dont Le Grand Abandon. C'était dans la foulée des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. J'attendais, j'étais presque sûr que l'État allait enfin réagir, parce que c'était tellement énorme d'aller massacrer la rédaction de ce journal qui était à la fois un tout petit journal, mais en même temps extrêmement symbolique dans la culture française, symbolique de la liberté d'expression, symbolique de la gauloiserie, symbolique de plein de choses, quoi, de ce qui était la France de toujours depuis la Révolution française. Je me suis dit, l'État ne peut pas ne pas réagir. Et précisément, ce qui s'est passé, c'est que l'État n'a pas réagi, c'est que les choses ont continué comme avant, et les choses n'ont fait qu'empirer progressivement. Et j'ai découvert ça progressivement en enquêtant sur ce bouquin, parce que je me suis dit, mais j'avais l'impression d'être tout seul. Je me suis dit, bon, alors il y a une barricade, moi je suis tout seul de mon côté, à être anti-islamiste, et qui est-ce qu'il y a du côté des islamistes, qui est-ce qu'il y a avec eux? Et j'ai commencé à faire la liste, donc les partis politiques, les grands corps de l'État, la magistrature, l'université, les intellectuels, les experts, les showbiz, le cinéma, le théâtre, et je me suis dit, tout le monde, toutes les superstructures de ce pays on fait alliance aujourd'hui avec l'islamisme le plus redoutable. Et mon livre a été publié quelques semaines avant la première manifestation des Gilets jaunes. Et quand j'ai vu surgir les Gilets jaunes, je me suis dit, ça y est, c'est cette France qui a été reléguée dans les marges du pays, dans les marges, dans l'anonymat, je veux dire, qui a été absolument annihilée par le système, qui ressurgit avec le drapeau bleu, blanc, rouge et avec la Marseillaise. Et je trouvais ça d'un symbolisme absolument magnifique. Bon, ils ont été renvoyés dans les marges où ils n'auraient, selon le pouvoir, jamais dû sortir. Mais c'est ça qui s'est passé, c'est qu'il y a une alliance objective aujourd'hui entre le pouvoir politique, par faiblesse, par veulerie, par refus de la guerre. Je veux dire, on est dans la même situation. On est dans la situation d'avant Deuxième Guerre mondiale, où les pacifistes ont le pouvoir et ne veulent pas la guerre. Et donc, quand on leur déclare quand même la guerre, eh ben, ils sont dans le déni, ils font comme s'il ne se passait rien. Et c'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui, je ne citerai qu'un exemple, c'est que si on psychiatrise tous les terroristes, tous les attentats terroristes ne sont jamais des terroristes islamistes, ce sont toujours des malades mentaux, des déséquilibrés, et c'est ça le problème de ce pays, c'est qu'il ne refuse de nommer ce qui lui arrive.
Alors, c'est un fait que lorsque Gérard Collomb fait sa passation de pouvoir au Premier ministre, dans sa déclaration, quand il quitte son poste, il dit que la guerre civile est à nos portes. C'est un fait aussi qu'il ne l'avait pas dit pendant qu'il était ministre de l'Intérieur. Et d'un autre côté, les hommes politiques, quand ils sont cette situation d'une guerre civile possible, il est quand même assez logique qu'ils essayent de déterminer comment ils peuvent faire pour l'éviter, puisqu'il n'y a pratiquement rien de pire dans un pays qu'une guerre civile. Donc il y a une espèce de une vraie responsabilité du politique que d'essayer de tout faire pour qu'il n'y ait pas cette guerre civile. D'un autre côté, nous avons assisté depuis l'an 2000 à peu près à un déni d'un certain nombre de la dangerosité de l'islamisme et notamment de l'antisémitisme islamiste. Et est-ce que là-dessus, on peut dire qu'une autre attitude aurait été possible ?
Ah ben, une autre attitude aurait été évidemment possible, mais la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est totalement extravagante, parce que il ne faut pas penser que le pouvoir politique ne fait rien, ne comprend pas, ne voit pas ce qui se passe. Il a aujourd'hui quand, et la déclaration de Gérard Collomb à la passation de pouvoir avec Édouard Philippe le montrait très bien, il y a aujourd'hui dans les sphères dirigeantes de ce pays une claire conscience du risque de guerre civile. Donc la stratégie politique qui a été mise en place depuis très longtemps, c'est pas de vague. Donc elle est double, la stratégie politique, c'est que on est très gentil avec les islamistes, on recule, on cède, on leur donne chaque fois qu'on peut, on leur donne satisfaction. Et en revanche, dès que quelqu'un se dresse en disant « mais ça va pas, mais il y a un problème, etc. », eh ben là, la toute puissance de l'État s'abat sur lui, on lui fait un procès, il y a un authentique djihad judiciaire qui s'est développé ces dernières années, où Éric Zemmour, par exemple, est le recordman absolu de tous les procès, il doit en avoir 5 ou 6 par an. Il y a des sites qu'on appelle dits de la fascosphère, comme Résistance Républicaine ou Riposte Laïque, ils ont accumulé, ils doivent avoir 45 procès. Je veux dire, il y a une tentative d'un côté donc d'être très gentil avec les islamistes, de leur donner satisfaction parce qu'ils représentent une menace qui va croissant, et de l'autre, il faut absolument que la moindre personne qui pourrait représenter un risque d'étincelle, celle qui mettrait le feu à l'embrasement des banlieues, parce que personne n'a oublié les horribles émeutes de 2005, eh bien, toutes ces personnes-là sont très sévèrement réprimées. Et donc, on est dans ce fait-là. C'est qu'il y a une inversion des rôles absolue. C'est qu'on est gentil avec les méchants et on est méchant avec les gentils.
Oui, c'est tout de même... c'est tout de même une situation compliquée. D'un côté, Éric Zemmour a beaucoup de procès, mais il peut s'exprimer quand même. Il a tout loisir de s'exprimer. Je ne suis pas sûr que nous soyons dans cette situation-là, mais il est de fait que la politique de déni, la politique d'accommodement est réelle. Et vraiment, en lisant votre livre, qui est très documenté, les pièces qui, pour moi, n'étaient pas présentes dans le puzzle mental que j'avais de cette situation, d'un seul coup, ça fait sens. Effectivement. Ce que vous voulez dire, c'est que il se produit une espèce de réaménagement intellectuel, culturel, chez les élites dans notre pays, et d'ailleurs pas uniquement dans notre pays. Je pense qu'il y a bien d'autres pays, où ça se produit, notamment en Europe, où, si j'ai bien compris, on dit finalement la montée de l'islam est quelque chose d'absolument inéluctable sur le plan démographique, il faut faire avec, et la France telle qu'elle était auparavant ne sera pas la France du futur, et donc il faut s'adapter à la France du futur dans laquelle l'islam aura une place extrêmement grande, et la question est de savoir si en déterminant cette conclusion, on ne trahit pas un certain nombre de principes qui ont fondé la République française.
Ah oui, on détruit une civilisation, parce que la France, c'est quand même une histoire absolument magnifique, je veux dire, qui est faite de milliers d'acteurs, de personnages, dans lesquels les Juifs, d'ailleurs, ont joué un rôle. Et progressivement, à cause d'une frange totalement intolérante d'islamistes, on en vient à rabattre sur la liberté d'expression, on en vient à dire que la France n'existe pas et n'a jamais existé, parce que c'est le terme qu'a utilisé Emmanuel Macron en disant « il n'y a pas de culture en France, il y a une culture mais elle est diverse ». Je veux dire, aujourd'hui, ça veut dire que le fond de la culture française peut être émis en équivalent avec le clampin qui arrive de Mauritanie. Ben, la culture mauritanienne et du ghetto mauritanien en France est équivalente à la culture française. Et quand on est dans cette perspective-là, il est clair que c'est une perspective d'abandon. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai appelé mon bouquin comme ça. C'est que à un moment donné, et ça c'est un thème que j'ai développé dans le livre, c'est que je pense que la classe dirigeante de ce pays fait sa révolution et qu'elle se sert de l'islam pour se débarrasser de la vieille société française, cette vieille société républicaine avec très compliquée à gérer, lourde, compliquée mais difficile, mais en même temps très riche de milliers d'éléments de culture et de valeurs. Et bien la classe dirigeante a entrepris de se débarrasser de cette vieille société et elle se sert des islamistes comme d'une massue pour casser les structures anciennes et faire émerger Citoyen européen déculturé qui sera uniquement abonné à Netflix et puis à Facebook et qui consommera et puis voilà, qui n'aura rien à dire.
Alors en ce qui concerne l'islam, on parle ici d'islamisme.
On parle bien d'islamisme,
n'est-ce pas que... Et ce que vous voulez dire, et ce qui pour moi est un élément extrêmement important, est que les accommodements que l'on pense faire avec un islam républicain, en réalité, ces accommodements, tels qu'on les voit dans votre livre, avec certains groupes, certaines officines, ce sont des accommodements avec des gens qui ont... l'islamisme modèle frère musulman, disons les yeux de chimène, et que c'est au profit de ces frères musulmans que risque de se faire la négociation. Est-ce que c'est bien cela ?
Vous vous rappelez, quand le livre, les deux journalistes du Monde, là, Davé et l'Homme, ont sorti « Un président ne devrait pas dire ça », il y a cette phrase de François Hollande qui est à un moment donné très intéressante et qui dit... Oui, il y a un problème avec l'islam en France. Oui, les gens, quand ils prennent le métro, ils voient des barbus et qu'ils lisent le Coran et ils comprennent pas et ils se demandent ce qui se passe. Et à un moment donné, François Hollande s'effraie lui-même de la situation et dit « Mais qu'est-ce qu'il va se passer ? Est-ce qu'on va aboutir à une partition du pays ?» Eh bien, ce cri d'angoisse d'un président un peu dépassé par la situation, j'ai l'impression que Emmanuel Macron l'a pris au mot et s'est dit « La partition du pays n'est pas un risque, c'est la solution. Et donc, on va confier les fauteurs de troubles à la meilleure organisation, la plus puissante, la mieux implantée sur le territoire national, que sont les frères musulmans. Et donc, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui risque de se passer à la rentrée avec l'intronisation de l'Association musulmane pour l'islam de France, la MIF, qui va être intronisée sur les fonts baptismaux et qui se verra confier les clés du halal, c'est-à-dire beaucoup d'argent, et surtout, en gros, le contrôle de toutes les mosquées de France. Alors, et donc, on assistera à ce moment-là à une partition du pays.
Alors, partition du pays ou bien progressive, disons, islamisation des valeurs républicaines telles qu'elle est décrite, par exemple, dans le livre de Houellebecq, Soumission, qui, à bien des égards, anticipait une situation que nous avons vue se développer, se détériorer. Eh bien, merci Yves Mamou. Je conseille vraiment à nos lecteurs de lire votre livre sur Le Grand Abandon. Ils ne vont pas en sortir très rassurés, mais peut-être qu'un certain nombre de choses vont s'éclaircir dans leurs réflexions.